parle d'économie.
Une conférence sur le commerce illicite de l'or en RDC se tient depuis quelques heures à Kinshasa. Cette rencontre, organisée par Ossissa et Sarwa, recherche des stratégies de lutte contre le trafic illicite d'or dans le pays. Près de 20 taxes et impôts à payer chaque année pénalisent la commercialisation de bois à Kisangani. Les exploitants artisanaux qui le déclarent demandent aux autorités de revoir à la baisse la nomenclature des taxes d'exploitation forestière. L'actualité, c'est aussi la réaction de l'association congolaise de banques au double braquage subi par la TMB au Sud Kivu et à Lubumbashi. La CB promet que les banques continueront à assurer la paie de fonctionnaires dans le Congo profond. Bonsoir et bienvenue à tous. Parlons d'abord de l'ouverture ce mardi à Kinshasa de la conférence sur le commerce illicite de l'or en RDC. Objectif visé par cette conférence organisée par les ONG Ossissa et Sarwa est de connaître les causes de la vente illicite de l'or et de mesures pour contrer cette pratique. Les participants vont également tabler sur l'affaire 3 tonnes d'or sorties de la RDC frauduleusement et qui se trouverait en Suisse en ce moment. Un reportage de Nadine Foulantim.
Pendant deux jours, les participants, dont les experts et ONG œuvrant dans le secteur de mines, vont débattre sur, entre autres, les initiatives et perspectives congolaises pour combattre la fraude dans le secteur de l'or en RDC, affaire de 3 tonnes d'or sorties frauduleusement de la RDC et raffinées en Suisse, lutte contre la fraude, les blanchiments des capitaux et la corruption. Le ministre des Mines, Martin Kabouéloulou.
Le gouvernement, au travers le ministère des Mines et de la Justice, est en train de voir comment on doit organiser pour que le dossier qui a été retiré ensuite, nous puissions le rouvrir, même ici au pays. Il faudra que ces 3 tonnes d'or reviennent à la République.
Soit pour Alexis Mikanji, directeur général du Centre d'évaluation d'expertise et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC, il y a des mécanismes mis en place par la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, pour la traçabilité et la certification des minerais.
Il n'y a pas une mesure particulière pour l'or sur le plan régional, mais il y a ce qu'on appelle les 6 outils de la CIRGL. En rapport avec les ressources naturelles qui permettent notamment d'encadrer la circulation de l'or. Parmi ces mesures, il y a notamment la certification. Il y a également la question des traçabilités. Il faut forcément une mise en œuvre effective de la coopération régionale pour que le contrôle soit effectif.
À l'issue de cette conférence, des recommandations seront formulées au gouvernement pour lui permettre de récupérer, si pas les 3 tonnes d'or se trouvant en Suisse, au moins l'équivalent en argent.
À Kisangani, les exploitants artisanaux de bois invitent les autorités congolaises à revoir à la baisse la nomenclature des taxes d'exploitation forestière. Ils se sont exprimés le week-end dernier au cours d'un atelier sur le respect de la réglementation forestière et le regroupement des artisanaux en association. D'après les exploitants, les 16 taxes et les 2 impôts à payer chaque année bloquent leur promotion. Ilunga wa Ilunga, exploitant forestier artisanal de Kisangani, au micro d'Anselme Massoua.
La première des choses, il faut d'abord que l'État d'abord diminue les taxes à payer d'abord en premier lieu. Puisque pour adhérer à une association, on vise la rentabilité d'abord en premier lieu. S'il n'y a pas la rentabilité, même si on se regroupe en association, cela ne produirait pas plutôt les avantages sociaux dont nous avons besoin. Lorsque les taxes sont tellement élevées, plus même la chance de payer diminue certainement. Il faudrait réduire d'abord les taxes à payer pour encourager les commerçants. Mais si le travail que nous sommes appelés à faire nous impose beaucoup de difficultés, donc les peuples ne tirent pas profit. C'est l'État qui profite. Dans ces cas-là, nous parlons que l'État est défaillant. Parce qu'il n'encourage pas les artisans à pouvoir émerger dans ce qu'ils font comme activité de chaque jour. L'État doit arriver à appuyer les initiatives locales. Mais c'est ça même la contribution de l'État par rapport à la population. Lorsque l'État soutient les initiatives locales, il diminue en même temps le chômage. Lorsque l'État diminue les taxes, il encourage les gens à pouvoir œuvrer. Il encourage en même temps les gens à l'entrepreneuriat. C'est ça même le concept même des lois OADA. C'est faciliter aux entrepreneurs de pouvoir travailler sans beaucoup de contraintes et tirer profit.
Pendant ce temps, la perception de l'impôt personnel minimum, IPM en sigle, porte déjà des fruits dans le territoire de Dungu, situé à plus de 700 km au nord-est de Kisangani. Plus de 2 millions de francs congolais collectés pendant la période allant de mars à août ont permis à l'exécutif du territoire de lancer les travaux de réhabilitation de l'école primaire Beleoete. Celle-ci est située à 45 km du centre de Dungu dans la chefferie de Wando. Beleoete a perdu toute sa toiture en février dernier suite à un vent violent qui a soufflé sur Dungu. Julien Titi, directeur de cette école primaire, s'exprime au micro d'Anselme Massoa.
Hier, nous avons reçu la visite de l'administrateur du territoire et puis du chef des collectivités et du comité des parents et la coordination représentée. Nous avons réceptionné 100 chevrons et 100 tôles. L'école était vraiment endommagée autour de 15 salles de classe. Le vent soufflait et ça a emporté la toiture. Tout ce qui était comme école, vraiment, ça a emporté ça. Et les bureaux étaient sérieusement endommagés. Les classes, la même chose. Lorsqu'il menaçait, s'il y avait pluie, on était toujours obligé de retourner les enfants qui devraient chercher là où ils pouvaient s'abriter de cette pluie. Lorsque la classe est inondée et le matin, il faut venir nettoyer. Et nous sommes soulagés. On se croyait vraiment abandonnés. Vraiment, ça nous a fait du bien.
L'impôt personnel minimum, voilà le thème de notre Zoom de ce soir, Pamela Mounazo.
L'impôt personnel minimum est un impôt prélevé sur des individus habitants dans des entités territoriales décentralisées, à savoir villes, communes, chefferies, secteurs. C'est pour permettre aux entités territoriales décentralisées de répondre aux besoins locaux, notamment construction des infrastructures, des collecteurs d'eau, de pluie, d'aménagement des avenues, érection de bureaux, de quartiers. Ce fut institué par l'autorité nationale depuis l'époque coloniale. Il était abandonné depuis 1987 à l'époque de Mobutu et remis à flot le 23 février 2013 par une ordonnance-loi. Et depuis le 18 mai de cette année, le gouvernorat a lancé officiellement la perception de cet impôt. Conformément aux textes légaux, cet impôt est payé par tout adulte âgé de 18 ans révolu. Il est fixé à 1 000 francs, 1 500, 2 000 francs en fonction de la viabilité économique de chaque entité. Sont exemptés du paiement de cet impôt les anciens combattants, les élèves, les étudiants dont les études constituent l'activité principale, les invalides permanents, et attesté par un médecin, les personnes âgées d'au moins 65 ans et sans activité, les retraités ne vivant que de la pension, les sinistrés et les déplacés de guerre. Alors, comment sera prélevé cet impôt et pour quelle finalité? Eh bien, ce sujet, il faut noter que c'est chaque entité décentralisée qui organise la perception de cet impôt, mais tout commence par la sensibilisation de la population, suivra alors le prélèvement proprement dit. À cet effet, des bureaux de perception sera implantés à travers des entités bénéficiaires et le fonds récolté serviront au financement des projets de développement des entités, notamment l'entretien des infrastructures routières et des avenues ainsi que la construction des collecteurs d'eau et des bureaux des quartiers. C'est justement le cas de cette école primaire Beleoete à 45 km du centre de Dungu dans la chefferie de Wando qui sera réhabilitée grâce à un montant de plus de 2 millions de francs congolais issus de l'IPM.
Écho d'économie. Réaction aux deux braquages subis par la banque TMB, respectivement le dimanche dernier au Sud Kivu et ce mardi à Lubumbashi, le président de l'Association congolaise de banques rassure que les banques continueront à assurer la paye de fonctionnaires dans le Congo profond. Toutefois, l'ACB demande aux autorités congolaises de renforcer la sécurité pour leur faciliter la tâche. Nadine Foulantimba nous en dit plus.
Des braquages de plus en plus enregistrés par l'Association congolaise des banques et le plus souvent dans la partie est du pays. Dernier cas en date, le braquage de la TMB ce mardi à Lubumbashi et avant cela, celui d'un convoi d'argent de la banque TMB dans le sud Kivu où il y a eu mort d'homme. Face à ces cas répétitifs, l'association des banques congolaises réfléchit sur des mesures sécuritaires à renforcer pour contrer ces genres de situations. Michel Losembe, président de l'association des banques congolaises ACB, explique.
Nous devons bien entendu, au-delà de cela, coordonner mieux au niveau de la police, au niveau du ministère de l'Intérieur, une plus grande collaboration avec l'association des banques pour que nous puissions avoir ensemble un système d'échange d'informations, d'échange de différentes techniques d'anticipation des risques pour que les uns et les autres puissent prendre les dispositions et réduire les risques.
Que supporte la perte d'argent en cas de braquage d'argent de la paye des fonctionnaires et quelle incidence cela peut avoir sur leur paye?
Une partie de la perte, par la force des choses, les banques vont la prendre parce que derrière une action comme celle-là, il y a un ralentissement de l'acte, perte d'équipement, perte d'argent. Vous savez très bien que même s'il y a des assurances, les procédures procédures de récupération de fonds sont difficiles, très longues et parfois impossibles. En conséquence, ce qui va se passer, ça veut vraisemblablement rendre les choses moins faciles et peut-être plus lentes dans certains endroits où on peut avoir des questionnements sur la sécurité. Je ne pense pas que ça mettra en danger le processus de la paie lui-même.
Une autre source proche de l'ACB souligne que ce braquage ne concerne pas que la TMB. Toutes les autres banques en sont victimes. Elle renseigne aussi que les agents de la TMB qui faisaient partie de ces convois ne sont pas arrêtés. Et enfin, toutes les banques sont déterminées à relever les défis de la paie des enseignants dans le Congo profond où insécurité, problèmes de route et autres problèmes logistiques se posent avec acuité.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Willem Lungamba et suivie par vous. Merci.